As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
Hello, everybody. Welcome to The Athletic Support, your bilingual podcast on the Montreal Canadiens. Bonsoir, tout le monde. Harpin, hello, my friend.
Hey, man.
So, this is the first time that the Canadiens have played in this building in the month of June. And it looks as though it's not going to be the last.
Yeah, seems like it. Yeah. It's quite something to see to what extent the Jets, this whole situation seems a little big for them right now. I felt they were completely disjointed to start the game. And listen, a lot of what the Canadiens are doing, that it's the result of that. The disjointedness of the Jets is because of how jointed, I guess, the Canadiens are. But they're looking very, very, very strong in terms of their system play, trusting the guy next to him. You know, all the stuff we talked about last game is just – You know, lather, rinse, repeat kind of thing. It's really, their team play is really shining through, and the Jets team play is just not there. And I find it in such a critical situation for them tonight, where they knew that if they lose, they're down 3-0. And yes, they're missing Mark Scheifele. They're basically missing Pierre-Luc Dubois because he's not doing anything. So, I mean, it's like, so,
yeah,
I just found the sense of urgency from the Jets came very, very late in the game when it was probably too late. And then they just started becoming stupid. Like, they're getting, you know, it just seems like this situation seems a little big for them right now. But the Canadiens deserve credit for how it doesn't seem too big for them. They have been poised. They've stuck to the game plan. They've now not trailed in six games, which is unreal. They've won six games in a row, first time since February/March of 2017. So a lot of good for the Canadiens and frankly a lot of bad for the Jets.
Yeah, well, I think that a key component of this game was how the Canadiens came out in the first period as the aggressor in this game. What I liked about their game tonight is I felt as though they had the killer instinct. And it's not always something that defined the Canadiens over time. But it was glaring to me. And I looked at the advanced stats after the first period, and I really thought that it didn't tell the whole story or even half of the story, because it suggested that it was a lot more balanced than what we could see on the ice, where the Canadiens came pounding shift after shift. Once again, the stall line really led the way in that sense, you know, installing their cycling game in the Jets zone. But, you know, you mentioned how disjointed the Jets are. I think that they quickly got deflated by how the Canadiens came out of the gate. And it's become a cliche when you hear players say, well, we knew that they would come out hard. Well, that's exactly what the Canadiens did. I wonder if they would be able to play exactly the same way if they were giving up the first goal and they would have to manage to fight back. But they do a great job as not having to verify that and just go out there and score first. So it's really paid off for them. And it builds a lot of confidence in their game, because even if, for instance, they would not score the first goal on any given game, at the point they're at, having won six games in a row, they've built that confidence. I think that enables them to say, you know what, we'll just stay patient. We'll stick to what we know. We'll stick to what we do good. And, you know, eventually things will go in our favor.
It strikes me that this not having trailed streak is like one of those weird playoff things we see in kind of magical playoff years. Like, I'm not saying that the Canadiens are necessarily going to go on some sort of magical run, but
no.
doesn't it strike you as weird? Because six straight games without having trailed for a second. I mean, it's really quite something. And so I don't even remember what the Canadiens play like when they're from trailing, because they haven't for so long. And, you know, obviously the goalie has a lot to do with it. The penalty kill has looked great. The goalie has a lot to do with that. They're now plus one, the penalty kill in the playoffs. They have four shorthanded goals and allowed three power play goals against. And so I can't remember I'm sure it's happened in other instances in the playoffs where a team has gone this long since it trailed in a game, but it does strike me as a weird playoff thing. You know, there was like overtime games in 93, and now there's this trailing situation. But, you know, I just feel like the starts have really been so on point. And I got to say, like, Dominique Ducharme went through a lot of ups and downs and a lot of heat and a lot of criticism for the way this team sometimes seemed unprepared to play. Over these last six games, they've started on time every game. And so if the coach can be criticized for them not starting on time, then he deserves some credit when they do.
For sure. Yeah. Because it's really something that's part of his job. I mean, making sure that these guys are ready, that they understand the moment and how to get by it, you know, how to approach it. I mean, some of the credit will go to him. Some of the credit will go, obviously. It's been a talking point in these playoffs, but how all the experienced guys have gone through it and they know how to get ready for those games. And it might not be such a surprise that you got guys like Staal and Perry who are really beating the drum right now. And it's weird because I was watching them play tonight and, you know, they're slow, right? It's a slow line.
Yes, and they are.
And I was thinking, and I could have asked that to Dominique Ducharme, but I decided not to. But I wonder if, to a certain extent, it's not a little bit like in baseball, where a pitcher has an arsenal of three or four different pitches, you know, and when the lines, the way they're built. Yeah, exactly. And the way that the lines are built now, you've got your fastball line, you've got your slider line, and you've got your screwball.
Your junk ball line. Yes.
Exactly. So I wonder if in hockey terms, if it applies in a way that it might get the opponent off sync, because they're constantly be thrown something that's really different and a very different style from one line to another.
Yeah, it is a bit of a change up, and it's weird for, I guess, Joel Armia to be the fastest guy on his line and the youngest guy on his line, but you know, and I think Armia said it, and Ducharme actually said it best after the last game, where, you know, those three guys just, they seem to complete each other really well. You know, their skill set is compatible, and we saw it on the first Perry goal, which was a hell of a shift by Corey Perry. It was phenomenal. But, you know, Staal going to the right spot below the goal line, making himself available to take a pass. Armia doing, you know, I'm going to shout out Nicola Tiberio in our comments, who's in all caps puts in Armia things. Thank you.
Yes.
I'm glad the Armia things is catching on. And so there we go. And so and it's like, you know, his shorthanded goal was a total Armia thing, you know, like his
oh,
know,
yeah,
just, you know, toe drag and then getting thrown into the post as he scores, top shelf, deflected off Morrissey's stick. Just, you know, he makes guys, when he's on it, he can make guys look silly. Like, and his skill level, you know, Ben Sherratt said it the other day, and he's talked, you know, he's played with him. He played with him in Winnipeg. He's played with him here. And it just echoes what people say about Yoel Armia when you play on a team with him and watch him practice. And I love watching the guy practice because he is legitimately a supremely skilled hockey player.
Like, yes.
And does all these weirdly, oddly specific things really well. One example I had was when I was here at the Bell Center on picture day, and all these guys are trying to shoot a puck into a photo hole. They'd been trying for 10 minutes and no one had done it. Armia walks up and grabs a puck and just zings it through the hole and leaves. It was an Armia thing. So I really think he's, I don't want to say the most important, cause I think Perry's done a lot, but the skill that Armia has in tight quarters and the ability to free up space for the other guy, I really think his role on that line, doesn't get talked about enough. And I think maybe it's cause he's not a big talker and he's not, you know, media don't often ask to talk to him because he's not a great interview. But I think he likes kind of being in the shadows on that line and just go about doing his business. But,
yeah, but there's another thing though. It's, you know, for all that we say about Corey Perry's presence in front of the net, I found that on that line, Corey Perry carries the puck a lot, and it's more often than not Armia who drives the net and creates havoc there and creates a situation that, you know, that even either there's going to be a defenseman that bumps into the goalie or there's going to be just a lot of screens, but it's not just Perry who's doing that. And I think that it really changes because the chemistry between Staal and Perry when it comes to puck support, when it comes to finding each other, they're very great, very good at that. And Armia proves to be the perfect complement in that sense.
Yes, absolutely. And it's crazy that I just find it insane that this is the line that we keep talking about. This is the line that keeps driving these things. You know, I mean, they open the scoring again. Who would have thunk? And then once they open the scoring, the Canadians just lock it down. Like it's really become a pattern. It's become a pattern with this team. And I would insist that the goalie has a lot to do with that. Yeah. But the cohesiveness of the entire group. And as you so well wrote after game two, it really is exemplified by that Staal line in the sense that it's a cohesiveness from the Canadians we had not seen up until game five against the Leafs, but really up until this series, but all season we hadn't seen it. And so it's appropriate that a line that was kind of thrown together all of a sudden comes to life as this beauty. Like it is somewhat indicative of how the team is playing as a whole. Cause we haven't seen them play this way all year. And we hadn't seen a line like that all year. So.
Yeah. And one more thing about the, and Armia specifically, it's ironic that he does that against the Winnipeg Jets. I mean, let's not forget that he was thrown away.
The ghost of Steve Mason rises.
Oh, absolutely. I mean, he was the bone that was thrown at the Canadians to say, thanks a lot for picking up Steve Mason's last year as contract.
Yeah.
And I know, I remember that back then, admittedly, the Jets were somewhat regrettable. They did it saying, okay, oh gosh, we know that we're losing a good player in the process. We have to do it. But it's also the fact that Armia, being a late bloomer in all aspects of his game, he's continuing, I think, to get better, even though probably that the first half of last season was his best hockey in the NHL. But definitely in Montreal, he's been a more impactful player on a more regular basis than with the Jets. And now he comes back to haunt his former team. And you mentioned Ben Sherratt. Same could be said of Sherratt because he's playing some huge minutes again against the top line on the other side. I mean, you were mentioning Dubois that we barely see. Same could be said of Kyle Connor. And Sherratt is among the defensemen who's doing such a good job at boxing out the guys. So the Canadians crash the net on one end, and they help Carey Price seeing the puck more often than not on their own end.
All right, everyone, we're gonna have to take a little break to hear from a sponsor, and you're gonna hear me read an ad from our sponsor because we really appreciate them. And then we're gonna come back in French. We're gonna talk about the situation on defense with perhaps Jeff Petrie out for game four. We're gonna have to discuss that right after this.
Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service at any time. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
On est de retour.
Ouais.
Alors, un peu, oui, c'est ça. Alors, avant
merci.
La pause,
merci à nos commanditaires chez Manscaped. On est très reconnaissants.
Alors, tu disais avant la pause que on allait parler de la situation en défense. Effectivement, Jeff Petrie, qui s'est blessé au courant du match, n'a pas joué en troisième période. On déclare une blessure au haut du corps. Selon Sportsnet, ça serait, semble-t-il, blessure à un doigt. Il se serait coincé un doigt dans le trou dans lequel les photographes faufilent leur appareil dans les...
Le trou où Yoel Armia a réussi à mettre une rondelle pendant l'entraînement que je mentionnais avant la pause.
Exact, c'est ça. Ouais. Alors, bon, des fois, les blessures au doigt, ça se tape, ça s'arrange, c'est les CD, mais d'autres fois, c'est plus problématique. Brendan Gallagher peut le dire. Qu'est-ce qui arrive si jamais Petrie ne peut pas jouer demain? Je connais déjà un nom que tu vas me mentionner, mais je serais curieux, en plus du nom, que tu me parles de la répartition de l'utilisation des défenseurs.
En fait, je ne suis pas certain que le nom que tu y penses, là, Alexander Romanov.
Non, Xavier Ouellet.
Oui, mais en fait, honnêtement, je me demande si ça va être ça. C'est parce que c'est pas comme s'ils ont plein de défenseurs qui sont capables de jouer à droite. Là, c'est pas exact. La façon dont les défenseurs ont été utilisés à date, Dominique Ducharme qui a insisté toute la deuxième demi de saison que Romanov n'allait pas jouer à droite, Ouellet l'a fait souvent. Ouais. Mais ceci étant dit, je pense qu'on s'entend aussi que c'est pas comme s'il allait mettre ou Xavier Ouellet ou Alexander Romanov dans le top 4. On s'entend que ça va probablement être Brett Kulak qui se met dans le top 4. Puis là, tu peux mettre Joel Edmondson à droite. Mais anyway, en tout cas, juste tout ça pour dire qu'une blessure à Jeff Petrie ou n'importe quel des top 4 en défense pour le Canadien serait un désastre. C'est comme vraiment, ça serait un peu comme perdre Mark Scheifele parce qu'il a perdu sa tête. Puis là, tu étais forcé à jouer une série sans ton meilleur joueur de centre. Mais les Canadiens, ils se fient tellement sur leur top 4 en défense que quand perdre un, ça serait très difficile. La seule chose que je dirais que c'est que Petrie a quand même tenté de revenir dans le match. Il a vu que ça n'allait pas. Mm-hmm. Mais je ne peux pas croire qu'il tenterait de revenir dans le match si c'était si sérieux que ça. Alors,
ouais,
c'est la seule chose qui laisse croire que peut-être qu'il jouera demain. Et comme tu as dit, un bon tape job, puis tu joues là. Ça avait l'air d'être sa main droite, ce qui serait quand même une main importante pour un droitier. Alors, mais on verra. Mais le Canadien, ça serait un dur coup, mais c'est quand même... Quand même, ils mènent la série 3-0, alors il faut être intelligent là-dessus aussi.
Oui, effectivement. Puis je pense que ça leur donne aussi un peu de marge de manœuvre. Là. Et je veux dire quelque chose qui est un peu intense, là, mais je pense que de la façon dont le Canadien joue contre les Jets, et du type d'équipe que les Jets représentent, le fait que le Canadien ait systématiquement pris l'avance depuis plusieurs matchs, j'ai l'impression que Joel Edmondson est pour l'instant, un défenseur encore plus important aux Canadiens que Jeff Petrie. C'est-à-dire que c'est tous les deux des défenseurs top 4. Ils ont des habiletés complémentaires, puis j'enlève rien à Petrie. Offensivement, il est très important. Mais quand je parlais de boxing out, au point de vue défensif, de protéger la boîte, de protéger l'environnement du gardien, Joel Edmondson, on en a parlé un peu dans un épisode précédent, à quel point il avait été le défenseur le plus régulier du Canadien depuis les séries. Honnêtement, si tu devais en perdre un, puis j'aurais jamais cru dire ça, mais ça aurait peut-être fait plus mal. Sauf que ce que je veux dire par là, c'est que même étant donné que le Canadien a une avance de 3-0, si tu te rabats sur tes défenseurs défensifs pour essayer de maintenir le fort, même si ça ne devait pas se terminer demain puis que la série se transporte à Winnipeg, je pense que le Canadien est en position au moins de pouvoir acheter du temps un petit peu de façon à ce que Petrie revienne. Puis encore là, je veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais permettre à Petrie qu'il revienne en bonne santé pour la ronde suivante.
L'autre chose que je dirais, c'est que le gars qui gère les défenseurs derrière le banc, Luke Richardson, il a déjà fait ça l'année passée avec 3 défenseurs. Avec Petrie, Weber, Sherratt, il l'a fait. Il a été capable de jouer ces 3 gars-là beaucoup. Puis en mettant Willett, Kulak un peu partout, là, c'était tout un job de gestion sur le banc, rendu plus facile avec l'arrivée d'Edmondson, mais c'est pas comme si ces deux gars-là, Luke Richardson et Dominique Ducharme, n'ont pas déjà vu comment faire avec 3 défenseurs. C'est quelque chose qui est faisable. Alors, ouais. On verra, mais c'est ça. C'est le 15e a beaucoup... ils se sont offert le luxe de permettre à Jeff Petrie de se mettre en santé. Puis particulièrement, s'ils sont capables de terminer la série demain, il va avoir quand même une bonne gap entre se voir Vegas mène 3-1 en ce moment. Alors, ça risque d'avoir une bonne gap entre les deux, la prochaine série, le début de la prochaine série puis la fin de celui-là.
Ouais. Dernier sujet, Arpin, j'aimerais ça qu'on parle un peu de Cole Caulfield qui a, depuis 2 matchs, a recommencé à tirer beaucoup. Ce soir, par exemple, tout le monde va parler de ses lancers puis du fait qu'il était très menaçant. Moi, j'aime beaucoup son jeu de passe. Je trouve que sa vision du jeu est excellente. Quand il est en contrôle de la rondelle, il ne pense pas seulement à tirer. Puis ça, je pense que c'est très important pour un tireur de montrer qu'il a des habiletés de passeur parce que tu peux pas forcer l'adversaire à ce qu'il s'attende à ce que tu tires systématiquement. Puis il y a bien des situations où il a fait le bon jeu, il a fait des passes magnifiques à ses coéquipiers. Puis je trouve que il est tellement bien installé puis bien incorporé dans le système de l'équipe. On peut bien dire, ah ben là, il y a de la misère à aller chercher un but, il est malchanceux, etc. Mais écoute, son jeu est tellement encourageant, je pense qu'il n'y a pas de doute que ça va venir plus tôt que tard parce que l'ensemble de son jeu, les tirs au but, les passes, même le jeu sans la rondelle, tout ça est très, très rassurant de sa part.
Oui, bien, honnêtement, la grande force de Cole Caulfield, tout le monde dit que c'est son tir, puis oui, effectivement, son tir est très... C'est comme Ducharme a dit, c'est une arme, sa meilleure arme, puis il a juste dit de l'utiliser. Alors, on l'a vu, il y a 11 tirs au but au cours des 2 derniers matchs. Après, je pense qu'il y avait 9 dans toutes les séries avant le match 2, dans le fond. Alors, mais sa vraie force, c'est comprendre où être sur la glace, à quel moment. C'est ça sa grande force. Et une fois rendu à ces endroits-là sur la glace, là, il est capable d'utiliser son tir pour marquer des buts. Sauf que ce soir, ce que j'ai remarqué, c'est que le nombre de fois qu'il était juste à la bonne place, au bon moment, pour aider son trio à continuer des présences en zone offensive. Tu sais, tu demandais plein de questions après le match sur le fait d'être capable de soutenir un peu de pression en zone offensive puis pas se fier juste sur des tirs, sur des opportunités « on the rush », comme on dit en anglais. Là. Ouais. Mais Caulfield, je trouvais qu'il facilitait ça beaucoup. Puis oui, je suis d'accord que son jeu de passe est sous-estimé. Mais à mes yeux, cet aspect-là, où il est capable d'être à la bonne place au bon moment, c'est quelque chose qui vient avec du temps. Puis je trouve que depuis, je dirais, 3-4 matchs, dans son cas, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus de son jeu. Puis là, c'est une fois que le timing sera parfait pour lui, dans ce sens-là, je pense que c'est là que la production va commencer à venir. Là. Moi, ça ne me surprendrait pas si le prochain match. Puis une fois qu'il le trouve, une fois qu'il commence à produire, ça change l'allure de cette équipe complètement, là, parce que le potentiel existe qu'une fois qu'il en met un dedans, que ça va commencer à suivre pas mal. Alors, et puis les Canadiens auraient besoin de quelqu'un comme ça, je pense.
Oui, puis je pense que oui, absolument, à 5 contre 5 comme en avantage numérique, quoique l'avantage numérique a encore, encore marqué ce soir par le biais de Nick Suzuki. Mais Caulfield, Oui, c'est ça, exactement. Donc là, il est venu à 10 dans ce département-là. Puis écoute, il est bon aussi en pression, en échec avant. Dominique Ducharme mentionnait après le match le fait que l'échec avant de l'équipe au complet avait été bien installé ce soir. C'est peut-être pas la marque de commerce du trio de Suzuki, surtout entre des quatre trios, c'est peut-être celui des quatre qui se définit le moins par ça. Mais quand même, je veux dire, Caulfield fait du travail honnête à ce niveau-là. Mais tu regardes sur tous les autres trios, là, la pression sur le porteur des Jets en zone défensive, c'était constant. Puis ça fait... ça aide beaucoup le jeu du Canadien.
Qu'est-ce que tu m'as dit juste avant le début du match? Là? Juste avant le début du match, tu disais, ah, Josh Anderson, il y en a un dehors. Oui. Il y en a un match qui s'en vient de lui. Là, puis
oui.
Exactement de ce que tu parles, Josh Anderson l'a fait dès le début du match. C'était honnêtement, il y avait... Tu sais, on dit tout le temps que tu entendais des pas. Tu entendais des footsteps.
Ouais.
Josh Anderson, il y avait beaucoup de footsteps ce soir-là. Les Jets ne voulaient rien savoir. Puis il y avait une présence en particulier où il frappait tout le monde. Puis les Canadiens ont besoin de ça plus souvent, lui, là. Mais je suis d'accord que pendant tous les trios, même celui de Suzuki, je me rappelle d'une présence où Suzuki s'est fait vraiment malmener partout sur la glace. Il s'est fait frapper. Il a perdu son bâton. Il était devant le filet. Il s'est fait frapper encore. Je suis comme, wow, c'est pas son genre de faire ça, tu sais. C'est pas son genre d'être tellement impliqué qu'il y a comme 3-4 mises en échec difficiles à gérer, puis il était correct. Alors, je pense que tous les quatre trios vont bien, puis là, ils ont une chance en or de se rendre parmi les quatre dernières équipes. Et honnêtement, Marc Bergevin dit tout le temps, on se rend en série, on sait jamais. Alors, quand tu te rends parmi les quatre dernières équipes, c'est vraiment, on ne sait jamais, particulièrement quand tu es un gardien comme eux autres. Là.
Oh là là, oui, absolument. Carey Price, encore une fois, extrêmement fiable, dominant. Il fait taire tous les critiques, je pense. C'est toujours agréable à voir.
Jusqu'en octobre.
Oui, c'est ça. ça va être l'heure du chill-out, encore une fois. Ben oui, les années se suivent et ça ressemble. Bon, ben écoute, demain soir, je pense que je vais me trouver un autre endroit pour éviter d'être sous la lumière jaune qui me donne l'impression d'être au salon de bronzage. Alors, je suis un peu jaloux de la lumière bleutée que tu as de ton côté.
C'est ça. Moi, je n'ai pas besoin de salon de bronzage. Là.
Non, c'est ça.
Je suis bien bronzé déjà.
Merci beaucoup tout le monde d'avoir été des nôtres pour le Super Athlétique. On vous donne rendez-vous demain soir, donc après la rencontre. C'est une belle tradition et on est parti pour la poursuivre encore un petit bout. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.
Salut.